Vivre FM
podcast. De 10h à 11h, la santé mentale en question, Anne Voileau.
J'ai le plaisir de recevoir Arnaud Rioux. Il anime des groupes depuis 20 ans. Il a expérimenté la méditation et la sagesse avec les maîtres tibétains et indiens. Il vient nous présenter son livre « Calme, mon carnet de méditation » aux éditions Solar. Un espace intime pour s'ouvrir au calme avec une création graphique poétique de Marie Bretat. Grâce à ce carnet, vous pourrez accéder facilement à une méditation au jour le jour et apprendre à emprunter la voie personnelle de votre sagesse. Pour en savoir plus, restez avec nous sur Vivre FM. Arnaud Rioux, bonjour. Alors, bonjour. Vous venez me voir déjà pour vous sortir un carnet sur la méditation. Calme, mon carnet de méditation. C'est tout un programme, mais c'est vrai que quelquefois ça fait peur. Et puis, très bien illustré par Marie Bretat, je recommande. Alors, on va parler un peu de ce que c'est carnet, puis je pense qu'on va parler de beaucoup de choses, puisque vous animez des groupes depuis 20 ans et vous avez expérimenté la méditation, la sagesse avec les maîtres tibétains et indiens. Donc, ça fait plein de choses. Je suis très impressionnée. Donc, qu'est-ce qui vous a donné l'envie et l'idée, alors de vous, vous connaissez la méditation, d'essayer de partager, en fait, cette connaissance avec d'autres ? Parce que c'est ça, en fait, ce carnet.
C'est ça. Et pour moi, la méditation, c'est quelque chose qui est simple, qui est accessible, oui, qui est vous. Abordable. Et justement, comme souvent, on me dit, c'est pas quelque chose pour moi, c'est pas ma culture, je suis pas tibétain. J'ai vraiment cherché les outils les plus adaptés pour transmettre un message simple. Et plutôt que d'écrire un livre complexe, plein de références, j'ai préféré faire un carnet qui soit comme un carnet de voyage, un carnet, si ce n'est que c'est un voyage intérieur, un voyage intime.
Alors, il y a à chaque fois un jour, on écrit, on médite. Il faut passer sur chaque chapitre combien de temps, vous pensez ?
Moi, je préfère encourager à passer peu de temps régulièrement plutôt que de passer 6 heures un jour et puis rien pendant 3 semaines.
C'est-à-dire bien comprendre comment ça fonctionne, parce que c'est un peu ça. Alors, il y a des choses, moi, j'ai vu, là, par exemple, je suis la ligne, bon, à chaque fois, je médite et je reviens à mon centre. Alors, déjà, je me suis dit, c'est quoi, mon centre ? Vous voyez ? Non, c'est des petites questions comme ça. Déjà, c'est au début du carnet, je me dis, c'est quoi, mon centre ?
Ouais. C'est la méditation qui nous montre où est le centre. Le centre, ça peut être à la fois la colonne vertébrale. Le centre, ça peut être notre hara. Le centre, ça peut être la partie la plus profonde et la plus sincère de notre être. Le centre, ça peut être le cœur. Le centre, c'est tout ce qui est essentiel pour nous. Et on quitte le centre quand on commence à s'occuper de la périphérie et à tourner autour du pot pour pas être dans son centre.
Alors, je reviens à mon centre. On fait quoi si on sait pas exactement où est son centre ?
On finit par le ressentir. Ah oui, parce qu'en fait, chacun sait où est son centre, mais quand on est agité, sans le savoir. Hein, c'est un peu comme Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir.
Oui,
nous,
c'est ça.
Quand on est calme, on sait où est notre centre. Mais ce qui nous coupe de notre centre, c'est tout ce qui nous fait tourner. C'est le téléphone à outrance, c'est la télévision, c'est etc.
Les pensées aussi. Hein,
les pensées
fois,
qui sont très nombreuses et qui nous mettent en fait dans le mental. Et le mental, c'est pas le centre. L'intellect, c'est pas notre intelligence. Et souvent, on se dit, je suis très intelligent et mon si je demande la
ou
question...
Ou je suis très bête, d'ailleurs.
Ou je suis très bête, mais en tout cas, j'ai l'impression que tout se passe dans le cerveau. Le cerveau, c'est pas notre centre. C'est pas notre centre et c'est pas le centre de l'intelligence. C'est le centre d'une des intelligences, l'intelligence intellectuelle. Mais on a au moins deux autres intelligences. Le deuxième, c'est l'intelligence du cœur, voilà, qui nous permet de dire, j'aime pas, je suis touché, je suis ému.
Mais ça peut
ému.
Être dans la tête aussi, non ?
On n'est pas ému pareil dans la tête. Quand on est touché par un coucher de soleil ou par un enfant ou par un bébé, c'est le cœur qui est touché. Et la troisième intelligence, c'est l'intelligence vitale, qui est l'intelligence des animaux dont on a besoin pour survivre, alors qu'on n'a pas besoin d'intellect pour survivre. Les animaux survivent très bien, ils n'ont pas d'intellect.
On n'en sait rien.
Ils ont pas de,
enfin, pas le même.
Je dis d'intellect, ouais. Hein, je ne dis pas d'intelligence. Ouais. Hein, c'est-à-dire qu'ils ont la capacité, bien évidemment, la première intelligence, l'intelligence vitale, qu'ont tous les animaux, c'est l'intelligence nécessaire pour faire son nid,
pour survivre,
pour vivre ensemble, pour s'occuper de ses enfants, pour trouver un partenaire, etc. Tout ça, c'est l'intelligence vitale. L'intelligence du cœur, c'est celle qu'ont l'essentiel des animaux aussi, hein, c'est-à-dire
aussi,
être touché par ses enfants.
Et puis, on vient de découvrir... Par exemple, excusez-moi, on vient de découvrir par exemple que sur les chats, il y a des chats qui ont de l'empathie et d'autres pas. C'est-à-dire quand quelqu'un a mal, y a un chat va se précipiter, et ce qui est vrai, moi j'ai eu des chats,
bien
et il y en a d'autres, ils s'en foutent totalement.
Bien
Donc
sûr.
L'empathie, c'est déjà quelque chose
c'est
d'autre.
C'est pour ça que je dis que c'est, oui. c'est pas tous les animaux, oui. mais une partie des animaux. Oui. Et on a vu des lions s'occuper d'un bébé oui. babouin, oui. on a vu des tigres oui. prendre oui, voilà. en charge un bébé buffle, on a vu des bourdons aller sauver un petit mmh. bourdon coincé dans une toile d'araignée. Donc tous les animaux...
Donc on sait pas où ça s'arrête, en fait.
Voilà, mais en tout cas, on sait qu'ils sont capables d'empathie. Mmh. Hein, un canard nourrir oui, des carpes, vrai, des... Oui. etc. Donc les animaux sont capables d'empathie. Ce qu'ils n'ont pas, c'est l'intelligence intellectuelle qui permet de savoir quelle est la capitale de la France, de la Suisse ou de la Belgique, ce qui n'est pas indispensable
non,
pour vivre.
Non, ils survivent très bien sans ça. Hein.
Voilà, très très bien, voire mieux que nous dans le long terme.
Alors vous, parce que c'est, on va reparler du livre après, mais vous, comment vous avez commencé à vous dire cette société de consommation, c'est il manque quelque chose, parce que c'est ça qui a dû vous pousser quelque
quand,
part.
Quand je me suis rendu compte que je n'étais pas dans mon centre, et que du coup j'étais à côté de la plaque...
Ah, mais alors vous aviez quand même une conscience inconsciente de votre centre.
Oui, mais surtout j'étais très malheureux. C'est ça qui m'a amené à la méditation. J'étais pas heureux dans mes relations amoureuses. J'étais pas heureux. J'avais l'impression qu'il me manquait quelque chose
oui, voilà.
d'essentiel.
Un manque.
Et j'avais beau faire un métier que j'aimais, j'ai été acteur, metteur en scène, je me suis régalé dans ma vie. Mais je me disais, si c'est ça la vie, il me manque quelque chose d'essentiel. Et quand je cherchais, je trouvais rien à l'extérieur. Et ce que j'ai trouvé d'essentiel, c'est à l'intérieur de nous. Ça s'appelle le cœur, ça s'appelle le centre. Et quand on est en lien avec ça, d'un seul coup. Tout s'éclaire.
Mais oui, mais
et
comment
tout
vous avez
sens.
Commencé à bah on peut dire que c'est comme une bobine de laine. Et puis vous
trouvez le bout.
Oui, comment vous avez commencé à dévider cette bobine?
Oh, c'est toujours au départ des synchronicités.
C'est des rencontres.
C'est une rencontre.
Hein.
C'est une rencontre dans un premier temps avec un maître tibétain qui me dit tiens, viens donc avec nous méditer. Je me dis qu'est-ce que c'est que ça, à quoi ça sert? Dans un premier temps, ça me semblait très abstrait. Je me disais mais à quoi ça sert? Et en même temps, il y avait une espèce de moteur qui me disait retourne-y. Et donc je retournais méditer régulièrement et à un moment donné, il y a quelque chose qui a changé comme si je changeais de lunettes. C'est-à-dire que je ne voyais plus le monde avec le même regard.
Oui,
et j'avais
ça,
des moments de méditation qui étaient vraiment des moments d'extase. Mais c'était des moments isolés dans mon quotidien. Maintenant, il y a une bascule qui s'est faite. C'est-à-dire que ces moments sont peut-être à 70 ou 80% de ma journée et il y a 20 ou 30% où je suis à côté de la plaque, à côté de chez moi.
Hein, c'est
donc
pas
j'ai,
beaucoup.
J'ai inversé le, la vapeur, tout simplement.
Mais alors là, vous dites quand même que l'élève, quand l'élève est prêt, le maître arrive.
Ouais.
Alors, votre moine tibétain, il est arrivé, comment vous l'avez rencontré? Parce que
j'étais prêt, j'étais en demande,
ah,
mon
ouais,
cœur
voilà.
était prêt, j'avais ouais. envie de recevoir. Et en fait, quand on regarde aujourd'hui, des maîtres, il y en a beaucoup, des cours de méditation, il y en a partout. Si on va dans n'importe quelle librairie, on va trouver beaucoup
peut-être un peu trop, justement.
Il y en a beaucoup, comme surtout, il en faut pour tous les goûts. Et voilà, on a toujours besoin de rééquilibrer. Il y en a tellement manqué pendant
oui,
des
voilà.
années qu'aujourd'hui,
ouais.
ça fait du bien qu'il y ait tout ça.
Oui, mais ça fait un peu peur, parce qu'il y a tellement de livres, d'abord lequel prendre, et puis si c'est si évident. Enfin, quelquefois, on a un recul par rapport à ce
ouais. Mais j'ai envie de dire, là aussi, de faire marcher le cœur. Il n'y en a pas un qui est meilleur qu'un autre. Tout a déjà été dit sur la méditation. Quand j'ai écrit mon livre, c'est une question que je me suis posée. Je me suis dit, mais tout a déjà été dit sur la méditation, tout a déjà été dit sur le cerveau, tout a déjà été dit sur l'intelligence animale, sur le management, sur le marketing. C'est pas pour autant que ça doit nous empêcher de transmettre notre expérience, parce que je
oui,
crois.
Oui, puis alors vous avez pris un autre.
Ah, j'ai changé de cap.
Une autre façon, oui. voilà. Non, vous avez. Oui, parce que là, c'est la personne intervient énormément dans votre carnet.
Je me suis rendu compte en fait que je me posais la question. Je me dis, mais pourquoi avec tous les outils qui existent sur la méditation, les gens ne progressent pas plus vite que ça? Et en fait, simplement parce qu'ils ne pratiquent pas assez. Donc, j'ai cherché un outil qui nous permette de pratiquer. Donc de transmettre moi un enseignement, mais avec des illustrations, des dessins à colorier,
qu'on
des mandalas.
Qu'on fait soi-même.
C'est une expérience. Hein, la méditation n'est rien, seul compte l'entraînement à la méditation. Et c'est un carnet d'entraînement, en fait. Hein.
Mais alors on se dit toujours, je suis un peu débordé,
oui.
comment je vais prendre le temps? Alors vous dites plutôt le matin, vous.
Je dis plutôt le matin, il y a cette phrase, c'est le Dalai Lama qui raconte ça, du disciple qui dit à son maître, mais moi j'ai pas le temps, combien de temps il faut méditer? Il dit 1 heure par jour. Mais 1 heure, j'ai pas le temps, faut que je m'occupe de mes enfants, que j'aille
voilà,
au travail, sorte
oui,
la machine à laver, que j'aille faire les courses. Alors il dit à ce moment-là 2 heures.
Hein?
Autrement dit, Dalai Lama, par exemple, qui est chef d'État d'un État en exil, mais chef d'État quand même, qui écrit 3 bouquins par an,
qui fait des tas de conférences,
médite en moyenne 8 heures par jour. Hein? C'est le cas aussi de Mathieu Ricard, qui parcourt le monde, qui préside je ne sais pas combien d'associations. Donc la méditation n'est pas l'opposé de l'action. Au contraire, plus on médite, plus on est dans son centre, et plus on va poser l'action juste
au moment
juste. On va à l'essentiel. On arrête de brasser du vent, parce qu'on embrasse pas mal quand même dans une journée.
Oui, sûrement.
Plus ou moins.
Je me rends plus compte. Mais on en fait trop. Mais sûrement, oui. Oui. Sûrement qu'on perd de l'énergie. Enfin, je dirais plus qu'on perd peut-être une énergie qu'il n'est pas nécessaire de perdre.
Ouais,
plus
ouais,
que de brasser du vent.
Souvent, je pose la question. Je dis, si c'était notre dernier jour, comment on consacrerait cette journée? On irait sûrement plus à l'essentiel.
C'est vrai. Oui, on s'est tous posé cette question un jour.
Ouais.
Oui. Oui, c'est sûr.
La méditation nous pose cette question-là. Si c'était la dernière journée, qu'est-ce que je ferais?
Mais c'est vrai aussi qu'on vit alors d'une façon un peu folle, hein, comme si on était éternel. Il faut dire ce qui est.
Oui, comme le Dalai Lama encore qui dit, on vit comme l'être humain vit comme s'il n'allait jamais mourir,
ben oui.
Puis meurt comme s'il n'avait jamais vécu.
C'est très juste.
C'est une façon de voilà, on consacre tout sur quoi en fait, hein, sur avoir un métier, avoir de l'argent sur son compte, avoir une belle voiture, avoir un téléphone plus moderne, mais tout ça on l'emmène pas de l'autre côté. À essayer d'exister. Mais c'est pas ça qui nous fait exister.
Oui, mais c'est bien le leurre.
Mais ça nous donne, mais c'est un leurre.
C'est un leurre.
Énorme,
ouais.
Énorme. Ouais. Et j'ai la sensation, je reste très optimiste, j'ai la sensation qu'aujourd'hui, on est de plus en plus nombreux à se rendre compte que cette société de consommation est en train de nous consommer nous-mêmes.
Oui, alors peut-être pas les gens qui commandent, c'est bien peut-être le problème. Je suis d'accord avec vous,
ouais.
Mais peut-être pas les gens qu'il faudrait.
Alors heureusement, pour moi, je crois qu'on peut tous commander. Et que justement, c'est notre plus grand pouvoir, c'est de prendre conscience qu'on est libre hein, de changer notre façon de consommer, notre façon d'entretenir les relations, notre façon... Et si on veut sortir d'un système, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui prennent conscience et qui créent un autre monde. C'est le message que j'ai envie de transmettre. On vit la fin d'un monde, il y a un nouveau monde qui se crée, et je suis très optimiste sur ce nouveau monde.
J'espère, vous êtes très optimiste. C'est bien peut-être que quand j'aurai fait tout votre carnet,
je serai optimiste. Mais c'est une discipline de tous les jours d'être optimiste. Hein, c'est une discipline de tous les jours.
Oui,
quand
sûrement.
J'ai regardé cette émission récemment, ces jours-ci, sur les pesticides, et d'un seul coup, je me dis,
oui.
Oh, ça y est, mon Dieu.
Oui, je t'ai regardé aussi.
Si, magnifique émission, mais moi, je ne peux pas la regarder plus de 5 minutes, parce que je sais tout ça, je sais que c'est vrai. Mais je sais que si je regarde l'émission jusqu'au bout, j'ai plus d'énergie pour après réenchanter le monde. Et c'est très bien que cette journaliste ou d'autres le fassent.
Surtout qu'il y avait un paysan à la fin qui était très bien, vous ne l'avez pas regardé jusqu'à la fin.
Non, je ne suis pas jusqu'au bout.
Alors, qui lui a remis les choses avec son bon côté les pieds dans la terre
ouais,
en fait.
Ouais, ouais.
Et là il a été très bien parce qu'il a carrément accusé l'autre.
Bien sûr.
Et il a été accusé gentiment en disant
ouais.
non c'était très bien, donc ça finit quand même si t'es pas optimiste, lui a fini par dire bah il y a des gens comme ça
dans ce monde en transition. Moi j'ai vraiment envie de consacrer toute mon énergie à faire en sorte de transmettre de l'espoir plutôt que du doute.
Mais alors est-ce qu'il n'y a pas un manque de lucidité quand même à un moment? Est-ce qu'il ne faut pas faire un peu les deux?
L'optimisme et le pessimisme, c'est pas un état de fait, c'est un point de départ. Et j'ai le choix, dès que je me réveille le matin, d'être pessimiste en regardant le côté sombre de l'humanité, je le connais autant que chacun, ou de regarder le côté optimiste. Et aujourd'hui, le pessimiste, de toute façon, ça nous emmène nulle part. Donc je préfère, et c'est un effort, parce que c'est plus facile d'être pessimiste.
Alors moi je ferais un peu les deux, je dirais c'est comme ça, mais ça n'empêche pas de... Mais
faire notre part, j'insiste en disant c'est pas ni un déni de ce qui existe.
Oui, là,
je suis conscient de ce qui existe, je suis conscient de la façon dont on a malmené notre planète pendant 40 ans, hein. Je suis conscient que notre alimentation a plus changé sur les 40 dernières années que sur les 20 000 années qui ont précédé. Je suis conscient qu'une tomate aujourd'hui c'est 27 produits phytosanitaires. Je suis conscient qu'on s'empoisonne et qu'on est à une période très critique de l'humanité. Et là, simplement, j'ai envie de mettre toute mon énergie en se disant
oui,
OK.
Oui, donc vous partez bien quand même d'un constat qui n'est pas forcément
catastrophique.
Brillant. Voilà.
Oui,
ça c'est important.
Catastrophique.
C'est ça.
Je parle de ce constat.
On part d'un constat difficile. Et après, qu'est-ce qu'on fait avec ça?
Oui, très clairement.
On est d'accord. Après, on va faire une pause musicale et on se retrouve tout de suite après.
De 10h à 11h, la santé mentale en question avec Anne Voileau.
Arnaud Rioux, alors nous sommes là parce que vous avez fait un carnet, c'est calme, mon carnet de méditation. On est parti de la méditation, mais on a été loin quand même. Ça mène loin, la méditation. Donc on était en train de dire quand même, vous êtes quand même lucide sur notre état de santé du monde et de la santé mentale du monde.
Qui va très mal.
Hein, qui va très mal. Mais ça ne vous empêche pas de réagir et à travers la méditation, d'avoir quand même de l'optimisme.
Oui, parce que la méditation, d'une part, permet de prendre le recul, mais c'est vrai que je considère beaucoup notre société comme de grands enfants. Quand je vois la façon dont on considère les animaux, dont on considère les océans, dont on considère
les personnes différentes.
Les personnes différentes, les personnes handicapées, les personnes. On parle souvent de qu'est-ce que c'est qu'une société civilisée, une société évoluée. Pour moi, une société évoluée, c'est une société qui sait vivre avec ses enfants, avec ses vieux, avec ses personnes différentes. Et c'est à ça qu'on mesure l'intelligence d'une société. Et par rapport à ça, je trouve qu'on est actuellement en France, en Occident, on est très en retard parce qu'on ne sait pas quoi faire avec nos vieux, on ne sait pas quoi faire avec nos enfants et on ne sait pas quoi faire avec nos handicapés ou avec nos fous parce qu'on les met dans une... On ne sait pas comment les intégrer, ce qui n'a rien à voir
avec... Je dirais même qu'on n'essaye pas forcément de les intégrer.
Mais ce qui nous dérange...
Parce que quelquefois, vouloir, c'est pouvoir.
Ce qui nous dérange, c'est toujours le... La psychologie nous apprend ça. Ce qui nous dérange, c'est toujours l'effet miroir. C'est pas l'autre qui nous dérange. C'est ce que l'autre nous renvoie à nous. Le fou nous dérange parce qu'il nous réveille à notre propre folie. Et l'handicapé nous dérange parce qu'il nous renvoie à notre propre handicap.
Faiblesse
ou handicap. On est tous handicapés à un point de vue. Cet après-midi, je suis passé dans un grand magasin. Il y avait une femme qui était aveugle et qui était avec une canne blanche. Je suis allé la voir, savoir si elle avait besoin d'aide. Elle me dit non, j'attends quelqu'un. Elle se repérait très, très bien dans le. Et je me disais, mais waouh, qui est handicapé à ce moment-là? Elle qui est capable de sortir, d'aller faire ses courses alors qu'elle est complètement aveugle, ou nous qui sommes souvent incapables de voir l'autre vraiment, c'est-à-dire pour ce qu'il est, pas pour son image, mais pour ce qu'il est, le voir avec son cœur, le voir avec tout notre être. C'est ça de voir quelqu'un. Saint-Exupéry l'a dit avant moi, hein, l'essentiel est invisible avec les yeux.
Oui, mais c'est facile, on le sait, mais c'est plus difficile après à vivre.
Et oui,
à vivre bien.
Et c'est pour ça que n'est pas handicapé ou n'est pas fou celui qui croit. Et je crois que notre société est assez folle dans sa façon de... Hein, l'homo sapiens, l'étymologie, c'est celui qui détient la connaissance. Et quand on regarde...
On l'a peut-être perdu quelque part.
Parce qu'on est la seule espèce capable non seulement de s'autodétruire, de mesurer à quelle vitesse on s'autodétruit, et malgré ça, d'accélérer la rapidité avec laquelle on s'autodétruit.
C'est quand même magique.
C'est assez fou.
Non, mais c'est vrai qu'on juge souvent. Alors, c'est vrai que la folie, elle a bon dos, parce que souvent, si on comprenait mieux les personnes qui ont des troubles psychiques, je pense qu'on avancerait beaucoup plus vite.
C'est Christophe André de l'hôpital Sainte-Anne à Paris qui dit que les fous sont des avant-gardistes, des précurseurs. C'est-à-dire que leur sensibilité, souvent d'une grande ouverture du cœur, mais coupée,
très souvent.
Voilà, mais par contre, coupé d'un ancrage, les met en avant-poste un peu d'un grand bateau, et donc ils prennent de plein fouet des choses que nous, on supporte, pas parce qu'on est plus intelligent, souvent parce qu'on est moins sensible.
Oui, ou qu'on ne les voit pas, ils sont beaucoup plus sensibles à la souffrance des autres aussi.
Voilà, par exemple, ou sensibles à d'autres fréquences, c'est complètement... On est tous à un endroit schizophrène, on est tous à un endroit paranoïaque, on est tous à un endroit... mais simplement, extérieurement, la forme présente bien. Hein. C'est comme la folie, c'est comme la violence pour moi. Hein. Il y a des situations, je regardais ce qui s'est passé à Gouttières ou ailleurs, hein, des situations qui sont extrêmement violentes au quotidien, mais qui sont vécues comme quelque chose de socialement correct, et des situations ponctuelles qui vont sembler très violentes à quelques-uns. Voilà, il y a une grève de train avec des gens qui passent 6 heures dans le train, c'est très violent pour chacun. Enfin, la violence, c'est
et
pas
ça
forcément...
Ça peut mal finir facilement.
Oui,
c'est vrai. Ouais. Alors là, donc, dans votre carnet, j'y reviens parce que c'est quand même important, c'est pas des exercices très compliqués.
Non, toujours très simple. Tous les exercices.
Parce qu'on se dit la méditation, bon, très bien, mais bon, tout le monde en parle et tout, mais c'est pas pour moi. Et puis c'est compliqué. Et puis en fait, c'est un peu de la magie. Ouais. Je veux pas rentrer là-dedans.
C'est de la magie, mais c'est la magie. C'est justement de nous changer de regard. Et c'est pour ça que les exercices sont simples. On peut les faire.
On commence quand même par soi.
On commence par soi.
Mais c'est ça qui est.
Ouais. On commence par prendre soin de soi.
C'est ça qui est pas toujours facile.
Comment on peut s'occuper des autres si on prend pas soin de ça au préalable? Et c'est prendre conscience de soi, c'est se respecter soi-même, et c'est intégrer la méditation dans des choses très quotidiennes, hein, sous la douche, en allant faire ses courses, en marchant.
Mais alors au début, quand même, il faut commencer plus si j'ai bien compris quand même, hein, j'ai lu votre, votre carnet là, c'est quand même plus, on commence d'abord par un coin qu'on s'approprie,
ouais,
on,
ouais.
Il faut quand même, disons, on s'éduque à la méditation d'abord quand même.
C'est ça, c'est plus facile en fait de méditer quand on commence dans un endroit privilégié,
on
préservé.
On aime bien qu'on choisit.
Et après le but c'est d'intégrer ce calme en nous pour pouvoir rester calme dans le métro, dans l'entreprise, quand c'est un peu agité, face à un conjoint qui crie ou qui pleure, face à...
Mais alors, quand on s'énerve avec votre conjoint, il reste calme, c'est énervant. Hein.
Alors, calme, ça ne veut pas dire insensible.
Avant.
J'insiste là-dessus. Calme, c'est pas insensible. Et on peut être très calme tout en se laissant toucher. Et souvent, moi, j'interviens dans les entreprises où des managers me disent « j'ai besoin d'apprendre à gérer les émotions ». Ce qu'ils appellent gérer les émotions, c'est mettre une cocotte minute dessus et être en apnée. C'est pas ça, gérer les émotions. C'est déjà les accueillir et les intégrer et aimer
nos
émotions.
Ce qu'on en fait plutôt que
savoir
de...
ce qu'on en fait.
Parce que sinon, ça risque d'exploser
ça
quand
peut,
même.
Oui,
je pense que ça peut. Mais donc, on part de soi, on fait un peu... Alors, c'est vrai que vous, méditation, c'est peut-être la première fois que je le vois associé à calme. Parce qu'on voit plutôt méditation, un côté spirituel. Et vous, vous l'associez au calme. Vous dites l'océan, ça peut être agité en surface et très calme au fond. C'est d'où ça vient
C'est la porte d'entrée, le calme.
Ah oui, voilà.
Le calme, c'est la porte d'entrée à la méditation. Et quand on rentre dans la méditation, on rentre dans le temple. Et on se rend compte que le calme, le silence, l'introspection, nous aide à accéder à une partie plus vaste de notre être, nous aide à accéder à notre cœur, à notre conscience, à notre intelligence, à beaucoup de choses qui sont souvent, sinon, inaccessibles. Donc le calme, c'est
oui,
la porte
on n'y pense pas, on n'a pas, oui, on n'a pas d'accès parce qu'on ne cherche pas non plus à en avoir.
Ben non, parce qu'on n'a pas idée de ce qui se cache en nous. Il y a un trésor en chacun.
Il y a déjà, c'est-à-dire que déjà, on n'a pas forcément le temps, on se dit qu'on n'a pas le temps. En plus, on n'a pas idée qu'il faut chercher quelque chose.
Si je vous disais cet après-midi, écoutez, il y a une valise avec 50 000 euros en petite coupure qui se trouve place de la République, combien de temps il vous faudrait pour y aller?
Je vous croirais pas.
Peut-être assez vite.
Hein.
Donc c'est juste une histoire de motivation.
Je crois que je vous croirais pas.
Voilà, mais c'est
pas,
juste. Mais pourtant il y en a une.
Ouais.
Mais c'est juste une histoire de motivation. Regardez comment les gens sont prêts à se bagarrer des fois à l'ouverture des soldes en étant là à 8h moins le quart pour l'ouverture à 9h bloqués, etc. Parce qu'ils veulent absolument obtenir quelque chose. Si on prenait conscience que ce qu'on cherche n'est pas à l'extérieur mais à l'intérieur, peut-être qu'on mettrait un peu plus d'énergie.
Alors ça, on en prend un peu conscience, je pense, quand on est amoureux, dans la première état d'être amoureux. Là, on a tout le temps qu'il faut pour l'autre, même si on est débordé. Et c'est un état de grâce, en fait. Et là, on s'aperçoit qu'on prend tout le temps qu'il faut, on est prêt à traverser tous les océans. Enfin,
qu'est-ce qui se passe quand on est amoureux?
Voilà.
D'un seul coup, non seulement l'autre, si on est vraiment amoureux, non seulement l'autre nous semble beau, mais on est content de se lever le matin, on sent la joie. Les petits tracas du matin, on n'en fait pas grand cas. C'est pas grave, il y a le transport qui est en retard, c'est pas très grave.
Rien n'est grave.
On voit la vie en rose. Et voir la vie en rose, ça veut pas dire qu'on est à côté de la plaque. Ça veut dire qu'on décide de porter consciemment un filtre sur notre réalité.
Sauf que quand on est amoureux, c'est pas conscient.
Ça se fait malgré nous.
Voilà.
La méditation, ça se fait pas malgré nous. Ça se fait consciemment. On pose consciemment
un
filtre sur la vie pour la rendre plus belle.
C'est
le même état. Moi, je suis amoureux, que je sois célibataire ou en couple, je reste amoureux. Hein.
C'est génial. Bah voilà. Alors il faut. Non. Mais alors je m'y mets là. Là, vous m'avez convaincu.
Il y a pas besoin de circonstances extérieures pour être heureux.
On a besoin de l'autre.
Non. Et c'est ce que nous apprend la méditation, c'est que la joie et le bonheur ne naissent pas des circonstances, c'est la joie et le bonheur qui attirent les circonstances favorables.
Ça, je pense que c'est vrai. Ça, je dois dire. Alors, vous méditez combien de temps comme ça dans la...
Peu, mais très régulièrement. C'est-à-dire que je médite, je préfère méditer 3 fois 10 minutes par jour. Quand j'ai commencé, je méditais 2 fois 1 heure. 1 heure le matin, 1 heure le soir. Et puis, j'ai vraiment intégré ça. Il y a un moment donné, ça m'a fait beaucoup de bien. Et à un moment donné, je sentais aussi que la méditation n'a de valeur que si elle est intégrée à l'action. Et donc, j'ai intégré régulièrement des petits moments. Mais quand je dis régulièrement, c'est que souvent, quand on commence à méditer, on peut être distrait. Et c'est important de tenir la ligne droite pour ne pas se laisser embarquer par la méditation. Sinon, on n'est plus dans la méditation.
Alors là, je n'ai pas compris.
Quand on commence à méditer, au bout de 3 minutes, les pensées commencent à arriver en disant
«
médite pas, ça sert à rien, tiens, tu ferais mieux téléphoner à Micheline, va te boire un thé, va fumer une cigarette ». Et d'un seul coup, on se dit « allez, j'écoute les pensées ». Donc on quitte la méditation. Méditer, c'est se dire, c'est dompter le singe. Le singe, c'est le mental. Voilà, c'est
alors
ça,
on fait
méditer.
Comment?
Eh bien, on respire. et on met notre concentration ailleurs.
Ouais, d'accord.
Dans la respiration.
C'est, d'ailleurs, c'est ce que vous mettez dans le carnet et on suit ça pas à pas.
C'est ça.
Et c'est vrai que ça, vous le dites bien. Donc, en suivant votre carnet, on peut y arriver.
On peut y arriver, jour après jour,
et
pas à pas.
Et pour faire tout le carnet, il n'y a pas de date, en fait.
Non, il n'y a pas de date. On peut le faire.
Parce que quand même, à la fin, vous dites quand même qu'on peut méditer partout, dans la rue.
Ben oui, c'est le but. Hier, j'étais dans le train était en panne, on est resté 2 heures, gare de l'Est, coincé dans le train. Certains rigolaient, d'autres pleuraient, d'autres avaient envie de taper partout, d'autres étaient prêts à se... Voilà. Et qu'est-ce qui fait la différence? C'est ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est là-dessus
qu'on sûr.
Peut... Et c'est cette phrase de Marc Aurèle, donne-moi le courage de changer ce que je peux changer.
Voilà.
La sagesse d'accepter ce que je ne peux pas changer, le discernement de reconnaître l'un de l'autre.
Ça,
la méditation
ça,
nous apprend le discernement.
Pour moi. Donc, c'est pas loin de la sagesse, alors.
C'est la sagesse. C'est la porte d'accès à la sagesse.
Nous allons faire une pause musicale en attendant de la... Et nous allons méditer pendant la pause musicale. On se retrouve tout de suite pour la dernière partie.
Vous écoutez La Santé Mentale en Question avec Anne Voileau.
Anne Rioux, c'est déjà la dernière partie, ça passe vite avec vous. Il faudra revenir, hein, parce que je vais faire votre carnet de méditation et puis vous reviendrez me voir et
avec
on
plaisir.
En reparlera. Alors, vous dites quand même que le calme, c'est bien, mais alors est-ce que je suis calme, je ne fais plus rien?
C'est ça, c'est pas du tout
non,
la méditation
je reste pas
et
sous
le
la
calme.
Couette.
Non, c'est pas l'opposé de l'action, au contraire. Ouais. Le calme, ça permet d'inspirer nos actions, de leur donner du sens et de leur donner de la cohérence. Ça permet ça, la méditation.
Donc la cohérence, ça veut dire aussi, comme on disait dans la première partie, peut-être je dépense moins d'énergie pour faire la même chose.
Ouais, et au contraire, moi plus je médite, plus je peux faire de choses dans ma journée. J'écris 3 livres en ce moment, en même temps. Et je les écris de 5h à 8h tous les matins. Et ça ne m'empêche pas d'animer une journée de formation derrière, de recevoir dans mon cabinet, de faire des conférences, de venir ici avec plaisir. Plus on est dans ce centre, plus on est en lien avec nous-mêmes. Et on peut
et
agir davantage.
En fait,
et avec l'autre, bien sûr. Ouais. Parce qu'en fait, on se rend compte que soi et l'autre, on n'est pas séparés.
Hein, non,
c'est, la,
bien sûr.
C'est la question de qu'est-ce qui nous fatigue.
C'est bien,
est-ce
on,
que
est,
c'est
on est bien frères.
Bah oui.
Et
on a beaucoup de ressources aujourd'hui, la physique quantique, la science moderne nous permet de comprendre qu'on n'est pas séparés l'un de l'autre et que prendre soin de l'autre, parce que la méditation permet ça au bout du compte, c'est pas simplement pour aller mieux soi-même, c'est pour mieux contribuer à rendre le monde meilleur, sinon qu'est-ce qui à quoi ça servirait?
C'est principal. Et alors on disait aussi que quand on donne véritablement on ne perd pas d'énergie, au contraire il y a une espèce d'échange qui se fait, on est plutôt... Vous, quand vous donnez une conférence...
Je ne suis pas fatigué, je suis au contraire dynamisé. Et quand j'anime même un stage avec 15 personnes, 12 heures par jour, je termine, je mouille la chemise, j'y vais à fond. Mais quand c'est terminé, je peux en recommencer une le lendemain parce que ça ne me fatigue pas de donner comme ça. Ce qui nous fatigue, c'est de donner en attendant quelque chose parce qu'on sent l'autre redevable. Mais en fait,
c'est l'histoire du don, du lien et de la dette. Oui.
C'est ça. Et pour ça, c'est comme la respiration. Dès qu'on a l'impression de donner plus qu'on reçoit, ça veut dire qu'on n'est pas conscient de tout ce qu'on reçoit. Alors, il n'y a qu'un outil qui nous permet de transformer ça, c'est la gratitude. Méditer sur tout ce qu'on reçoit au quotidien. Méditer sur le fait de pouvoir manger. Méditer sur le fait d'avoir un toit, d'être aimé, d'avoir la possibilité de se déplacer librement, d'être dans la gratitude. Et la gratitude, c'est à mes yeux l'un des plus grands moteurs de l'existence.
Oui, et puis, c'est vrai que si quelqu'un vient vous voir, il vient, c'est une confiance qu'il vous fait. Donc, il y a un échange, il y a un don des deux côtés.
Ouais,
c'est un échange.
Ouais. C'est un échange et on se nourrit l'un l'autre par le fait que dès que quelqu'un grandit, c'est l'humanité qui grandit.
Alors, vous allez faire grandir beaucoup l'humanité. Il y a encore du travail quand même.
Moi, je fais ma part. Hein. Vous connaissez la légende du colibri. Hein. Il y a un incendie dans la forêt et puis il y a un petit colibri qui prend une goutte d'eau, qui va la mettre sur le feu. Et il y a 2 éléphants qui s'ébrouent dans la mare en disant « Mais qu'est-ce que tu fais avec ta goutte d'eau ?» Il dit « Il y a un incendie. » Et tu crois qu'avec une goutte d'eau, tu vas éteindre l'incendie? Et le colibri lui répond « Je sais pas, je fais ma part.
Ouais. »
Hein. Et cette légende du colibri
que
Pierre Rabhi a transmis, pour moi, c'est ça qui se passe aujourd'hui. Faire sa part, faire simplement sa part dans ce monde qui va peut-être pas très bien, mais si chacun fait sa part, ça peut aller mieux.
Et alors, vous expliquez aussi ça peut aller avec n'importe quelle religion, en fait.
Il n'y a pas besoin d'être bouddhiste ou tibétain ou chrétien.
Et on peut aussi l'être.
On peut aussi l'être. Ouais. C'est vrai que le bouddhisme s'est beaucoup intéressé à la méditation et que ça fait partie, les moines bouddhistes tibétains intègrent vraiment l'étude précise de la méditation dans leur corpus. Ce que ne font moins les chrétiens ou dans l'islam. Mais ceci étant, on n'a pas besoin, et on n'a pas besoin d'avoir une religion. On peut très bien n'avoir que l'amour, l'amour comme religion, ça va très bien aussi.
C'est déjà pas mal.
C'est déjà bien. Si ça ne nous amène pas à ça, à quoi ça peut nous servir?
Oui, il y a quelqu'un qui avait dit, oui, vous trouvez, vous cherchez Dieu, vous ne le trouverez peut-être pas, mais si vous cherchez la vérité et l'amour, vous rencontrerez Dieu. Donc oui, c'est un peu ça aussi. Alors, c'est vrai que vous, maintenant, alors vous donnez des... Vous allez dans les entreprises aussi.
Je vais dans les entreprises aussi, parce que je crois qu'il y en a beaucoup besoin.
Il y a du boulot
Et il y a une ouverture aussi, parce que je sens les managers et les entreprises souvent perdus en quête d'inspiration.
Bah parce qu'ils sentent que ça ne fonctionne plus.
Ben non. Donc, je viens transmettre, enseigner la méditation et puis faire...
Alors, vous êtes reçu comment? Parce que le travail et la méditation,
Si les Tibétains parlent des moyens habiles, je choisis mes mots pour ne pas choquer, pour pas déstabiliser trop. Et je m'adapte simplement.
Oui, les moyens habiles, c'est bien ça.
Ouais.
Ça me plaît bien.
Oui, mais c'est la même chose. Il est question de cœur, il est question d'ancrage. Et voilà, je trouve d'autres mots. Mais
qui sont des mots de l'entreprise.
Ouais, ouais, ouais.
Mais il y a un réel besoin.
C'est une histoire. Il n'y a aucun doute. Il y a une grande souffrance en entreprise. Hein. C'est quand même. L'entreprise aujourd'hui, c'est quand même un adulte sur quatre à l'ulcère à l'estomac et 12% des managers qui sont exposés au burn-out. Hein. Il y a vraiment besoin de méditer. C'est pas du toc.
Non, c'est vrai. Alors, vous pensez que vous êtes bien reçu? Vous pensez que les gens, ça change quelque chose quand vous y allez? Il y a cette attente.
Très
et
clairement,
cette attente.
Oui. Si je pouvais vous faire lire les témoignages que je reçois qui me disent oui, ça y est, j'ai pris conscience. Pas parce que je transmets quelque chose d'extraordinaire, parce que je les invite à se relier à leur extraordinaire. C'est ça que je fais. J'invite chacun à se relier à son extraordinaire. Nous sommes extraordinaires. Et je le dis aux éditeurs qui nous écoutent, vous êtes extraordinaires. Extraordinaire.
Mais alors, moi, je pense que le monde entier est extraordinaire, mais je m'exclus de cet extraordinaire. J'ai du mal à penser que j'ai quelque chose d'extraordinaire. Je vais le faire quand même, parce que je vous crois.
C'est complètement notre culture judéo-chrétienne qui nous fait croire qu'on n'est pas des gens extraordinaires. Donc, on veut bien être bouddhiste, mais on ne veut pas être Bouddha. On veut bien être Christ, mais on veut pas être chrétien. Et toute notre éducation, si jamais je vous dis, vous êtes adorable, vous faites bien votre boulot, vous allez dire qu'est-ce qu'il est aimable.
Ouais.
Si maintenant je dis, voilà, moi je suis vraiment quelqu'un de bien, je suis quelqu'un de généreux, mais si je le dis, on va se dire pour qui il se prend.
Non, moi je veux dire c'est vrai, c'est ce que j'ai ressenti.
Alors ça veut dire que, mais on peut dire ça la même chose de nous-mêmes. Et c'est Nelson Mandela qui dit, ce n'est pas rendre service au monde que de se croire petit. On a besoin chacun d'être en lien avec la plus belle partie de nous-mêmes et de notre humanité.
Donc même si on n'y croit pas, on essaye quand même la méditation et on découvrira quelque chose.
À force de le dire, ça devient une réalité. Hein, comment elle est cette phrase, j'ai pas la phrase exacte, elle m'échappe, mais répète ton geste tous les jours, force le destin, au bout d'un moment il s'habituera.
Il faut essayer. Oh non, mais je n'ai rien contre. Je vous dirai ça. Je vous dirai ça dans 6 mois. Vous revenez. Et alors un message parce qu'on va arriver presque à la fin de l'émission pour les personnes qui sont un peu comme moi, qui veulent bien tout pour le monde, mais qui ont du mal à s'accorder des choses.
Prendre conscience qu'ils sont le monde déjà, hein, et peut-être prendre de la main gauche pour donner à la main droite. Commencer par ça.
Si on n'a rien.
Alors on donne du vent. Mais déjà donner du vent, ça permet de faire avancer les bateaux.
Et vous me rassurez, on peut quand même faire votre carnet de méditation, même si on n'a pas confiance au départ en soi.
C'est le point de départ. Le point de départ, c'est exactement là où nous sommes. Si jamais on attend d'être déjà un moine bouddhiste accompli pour commencer la méditation, c'est pas la peine. Le point de départ, c'est là où on en est. Moi, j'ai commencé à méditer. J'étais plein d'agressivité, de peur. Je manquais de confiance. Je m'aimais pas. J'étais rigide dans mon dos. J'avais mal aux genoux quand je m'asseyais. Voilà. Et puis, petit à petit, il y a quelque chose qui s'est assoupli.
Mais combien d'années?
Peu importe combien d'années. Combien d'années il vous a fallu pour apprendre à parler devant un micro? Combien d'années il vous a fallu pour permettre?
Pas très longtemps.
Mais à combien de personnes ça semblerait inaccessible hein? Et le tout, c'est de trouver, pour nous, qu'est-ce qui nous fait du bien pour être en lien avec le meilleur de nous-mêmes.
Alors, oui, c'est sans ce qu'on peut, ce qui nous fait du bien, mais pas forcément physiquement ou intellectuellement.
C'est lié. Ce qui nous fait grandir, ce qui nous fait grandir profondément. Qu'est-ce qui nous fait grandir? Qu'est-ce qui nous rend beau? Et vraiment, je crois que, s'il y a un mot que je voudrais transmettre à tous les auditeurs, c'est que je crois que le plus beau cadeau qu'on peut rendre à l'humanité, c'est de révéler notre lumière, de rendre, et toutes les traditions l'ont enseigné, c'est de transmettre à l'humanité le meilleur de nous.
C'est beau, c'est beau. Je suis sans voix, vous voyez. Alors, on peut trouver donc Calme, mon carnet de méditation. Alors, je répète, hein, parce que c'est vraiment bien la personne qui a illustré.
Marie Bretin, ouais, elle a fait un travail extraordinaire.
C'est très relaxant, c'est très beau en plus. Ouais. On peut le trouver où ?
Partout, chez toutes les libraires.
Et vous avez un site ?
arnauriou.com.
Voilà, c'est simple. Donc, on vous retrouve. Et alors, on aura là.
Et il y a sur le site les articles, des méditations.
Voilà, on veut vous rencontrer dans un groupe, vous faites.
Pareil, je fais des stages, j'accompagne des groupes dans le désert, en forêt, en région.
Bien.
Et ça, voilà, de 2 jours, 3 jours, 4 jours. Mon site arnauriou.com, et là, il y a toutes
on
les
sait
infos.
Où on va.
Ouais, on sait où
et
on
vous,
va.
Maintenant, c'est toute votre vie.
Ah, c'est depuis le matin où je me réveille jusqu'au moment où je m'endors. Et parfois la nuit.
Et c'est génial.
Mais la vie est tellement courte, on n'a pas de temps à perdre.
C'est vrai, c'est vrai.
On n'a pas de temps à perdre.
Oui, mais c'est aussi ce qui active les gens dans cette idée de société de possession et d'eau. C'est aussi, on n'a pas de temps à perdre.
Cette méditation de se dire si c'était la dernière journée, tous les matins je la fais avant de partir. Je me dis si c'était ma dernière journée. Et je veux pouvoir partir en me disant, ok, j'ai fait de mon mieux.
Alors regardez, c'était ma dernière journée, je ne vous connaissais pas avant. Évidemment, maintenant, je dirais, je viens voir Arnaud, évidemment. Mais ce matin, je me serais bien restée sous la couette, voyez. Donc, c'était ma dernière journée, je serais restée sans bouger. C'est pas bien.
Mais c'est pas ce qui s'est passé, finalement, vous êtes sortie.
Oui, parce que je me suis pas dit, c'est ma dernière journée. Donc, ça marche pas tous les coups. Je crois qu'il faut méditer d'abord.
C'est
je pense qu'il faut méditer d'abord, se retrouver soi-même, et après on peut dire si c'était ma dernière journée. Sinon,
c'est ça.
Voilà. Sinon, je ne vous aurais pas rencontré, c'était très dommage.
C'est dommage.
Donc, merci beaucoup
merci
pour ce livret qu'on peut trouver. Donc, c'est les éditions Solar.
Solar.
Merci beaucoup et à bientôt.
À bientôt, avec plaisir.
Vivre FM, podcast.